Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartré. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les archétypes de Carl Jung de Søren Hildegard se présentent comme un ouvrage de vulgarisation consacré aux grandes figures de la psychologie analytique. Son sujet central est la façon dont les archétypes, formes symboliques issues de inconscients collectifs selon Jung, structurent les émotions, les conflits intimes, les aspirations et les représentations de soi. Le livre semble viser un public non spécialiste intéressé par la psychologie des profondeurs, la connaissance de soi et les liens entre mythes, rêves et comportements humains. Plutôt qu'un manuel clinique, il propose une entrée accessible dans un corpus complexe, en mettant en avant des figures comme ombre, anima, animus, sage, eros ou soi. Son objectif est double clarifier les notions jungiennes essentielles et montrer comment elles peuvent servir de guide de lecture pour comprendre les tensions psychiques. Cette orientation place le livre entre introduction théorique et guide de réflexion personnelle. Avec une attention portée aux dynamiques internes plus qu'aux classifications simplistes, je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, inconscient collectif et archétype comme structure universelle de l'expérience humaine. Le point de départ du livre repose sur une idée centrale de Jung, la psyche ne se limite pas aux souvenirs personnels, aux traumatismes individuels ou aux choix conscients. Elle contient aussi un niveau collectif. Forme de motifs symboliques que les cultures expriment par les mythes, les contes, les religions, les rêves et les images de art. Les archétypes ne sont donc pas de simples personnages fixes, mais des formes dynamiques qui donnent une structure aux expériences humaines fondamentales peur, transformation, conflit, filiation, désir, perte, protection ou quête de sens. Cette distinction est importante, car elle évite de réduire les archétypes à des profils de personnalité. Dans une perspective jungienne, un archétype agit plutôt comme une matrice, il colore la perception, oriente certaines réactions et donne une forme symbolique aux tensions internes. Le livre introduit ainsi une manière de lire la vie psychique où les images intérieures ont une fonction. Elles ne sont pas seulement décoratives ou imaginaires. Elles traduisent des forces profondes que la conscience doit apprendre à reconnaître. Deuxièmement, ombre, anima, animus et soi comme figure centrale du conflit intérieur. Une part importante de la réflexion porte sur les grandes figures jungiennes qui rendent visibles les divisions internes de la psyche. Ombre représente ce qui est rejeté, ni ou mal intègre impulsion, peur, jalousie, colère, fragilité, mais aussi talent refoule. Son rôle est décisif, car elle montre que la connaissance de soi ne consiste pas seulement à confirmer une image positive, mais aussi à affronter ce qui dérange. Anima et animus désignent, dans le vocabulaire classique de Jung, des polarités psychiques associées au féminin et au masculin symbolique. Leur intérêt actuel tient moins à une lecture rigide du genre qu'à la question des énergies complémentaires sensibilité des décisions, réceptivité et action. Intuition et formulation. Le soi occupe une place plus englobante. Il symbolise la totalité psychique vers laquelle tend le processus de maturation. En renissant ces figures, le livre montre que les archétypes ne sont pas des étiquettes morales. Ils fonctionnent comme des images de tension, de compensation et de possibilité de transformation. Troisièmement, individuation comme chemin de synthèse entre conscience et inconscient, le livre accorde une place implicite ou explicite au concept de individuation, qui constitue un axe majeur de la pensée de Jung. Individuation ne signifie pas simple affirmation individuelle, ni recherche de singularité sociale. Elle désigne un processus psychique par lequel une personne cesse de se confondre avec son image consciente, ses rôles ou ses automatismes, pour intégrer progressivement des contenus inconscients. Les archétypes interviennent dans ce mouvement car ils mettent en scène les forces qui échappent au moi. Quand une figure comme ombre surgit dans une réaction disproportionnée, un rêve ou une fascination, elle signale souvent un déséquilibre. La tâche ne consiste pas à supprimer cette force, mais à comprendre ce que sa présence compense ou révèle. Ce modèle donne au livre une dimension pratique, il invite à observer les conflits intérieurs comme des occasions de réorganisation, plutôt que comme de simples défauts à corriger. La maturité psychique apparaît alors comme une intégration progressive des oppositions internes, non comme une maîtrise totale de soi. Quatrièmement, rêves, mythes et symboles comme langage indirect de la psyche, une autre dimension essentielle concerne le rôle du symbole. Dans la tradition jungienne, les archétypes ne se donnent presque jamais sous forme abstraite. Ils apparaissent à travers des images, un guide, une mère, un animal, un vieillard, une maison, une descente, un combat, une traversée ou une figure menaçante. Ces images se retrouvent dans les rêves individuels, mais aussi dans les mythes et récits collectifs. Le livre situe probablement les archétypes dans cette zone de passage entre expérience intime et imaginaire universel. Cette approche permet de comprendre pourquoi Jung accordait une telle importance aux productions symboliques. Elles contiennent une intelligence psychique que le raisonnement direct ne saisit pas toujours. Interpréter les symboles ne revient pas à appliquer un dictionnaire automatique. Une même image peut prendre des sens différents selon la situation affective de la personne. Le cadre jungien propose donc une lecture prudente, identifier la figure archétypale possible, puis examiner comment elle dialogue avec la vie concrète. les conflits présents et les besoins de transformation. En dernier lieu, usage personnel des archétypes sans réduction aux typologies simplifiées. Le positionnement le plus utile du livre tient à sa capacité à relier les archétypes au développement personnel, tout en gardant une base jungienne reconnaissable. Les archétypes peuvent aider à nommer des dynamiques qu'une personne ressent sans toujours pouvoir les clarifier: peur de échouer, attirance pour le contrôle, besoin de protection. Désir de rupture, aspiration à la création ou sentiment de ne pas habiter pleinement sa vie. Cependant, une lecture solide doit éviter de transformer ces figures en tests rapides ou en identité fixe. Dire qu'une personne est Eros, sage ou créateur, peut être utile comme image provisoire, mais devient pauvre si cela remplace analyse des contradictions internes. Le livre semble inviter à un usage plus nuancé, repérer les motifs dominants, observer leurs excès, comprendre leurs compensations et chercher une relation plus consciente avec eux. Cette prudence distingue la psychologie analytique de nombreuses typologies contemporaines. Les archétypes ne servent pas seulement à se définir, ils servent surtout à mettre en mouvement un dialogue intérieur plus complexe. En conclusion, ce livre conviendra surtout aux lecteurs qui veulent aborder Jung sans entrer directement dans les textes les plus techniques de la psychologie analytique. Il peut être utile aux personnes intéressées par les rêves, les mythes, les symboles, la connaissance de soi ou les conflits intérieurs, à condition de chercher une introduction réflexive plutôt qu'une méthode clinique. Son bénéfice principal est de donner des repères pour reconnaître certaines forces psychiques récurrentes: ombre, polarite anima et animus, figure de guide, dynamique du Eros. Orientation vers le soi. Ces notions peuvent enrichir la lecture de soi, mais aussi celle des récits, des relations et des réactions émotionnelles intenses. Dans sa catégorie, il se distingue par son ancrage dans les concepts jungiens plutôt que par une simple liste de profils. Les ouvrages de développement personnel utilisant les archétypes tendent parfois à les transformer en catégories faciles à consommer. Ici, le thème central reste plus proche de la psychologie des profondeurs, comprendre comment des images collectives agissent dans la vie intime et comment leur intégration peut soutenir un chemin de maturation. Le livre représente donc une porte entrée accessible vers Jung, particulièrement pertinente pour un premier contact structure avec les figures de l'inconscient. Si vous souhaitez soutenir Selene Hildegard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.